Romans, BD, documentaires, livres pour enfants ou guides de voyage, c'est qui ou quoi ? Une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Pas de point commun entre les livres dont je vais vous parler aujourd'hui, à part que je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a quelques jours est sortie la sélection du Festival BD d'Angoulême, qui va avoir lieu fin janvier à l'autre bout de la France, donc à Angoulême. Cette sélection, elle est composée de 44 titres de BD, des BD super classiques dans la forme comme Jérôme K. Jérôme Bloch pour ceux qui connaissent, une BD que j'adore personnellement, ou des BD beaucoup plus expérimentales genre Guirlanda de Matotti. Il y a des comics, des mangas, de l'autobiographie, quasiment tous les gros éditeurs sont représentés, les petits aussi, des auteurs connus comme Trondheim ou Marion Montaigne, et des inconnus comme Nadar ou Daria Bogdanska. Des hommes, des femmes, je sais pas si elle a parité, mais en tout cas, tout ça, ça donne une sélection très éclectique, un peu pointue, mais pas que, et dont je ne sais pas du tout ce qu'ils vont en faire. Toujours est-il que moi, j'en connais que 2 sur 44, et ça me laisse présager de bonnes découvertes. Dans les deux que je connais, il y a cette BD qui s'appelle « Alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien » de l'autrichienne Uli Lust. Chez l'éditeur ça et là. Et celle-là, ça tombe bien, je l'ai acheté au hasard il n'y a pas longtemps dans une librairie à Lyon. Je vais donc en profiter pour vous en parler. Alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien, c'est une BD donc autobiographique. Uli Lust y raconte ses 23 ans et sa vie amoureuse de l'époque qui est pour le moins tumultueuse et compliquée. Elle a eu un enfant qu'elle a eu à 17 ans d'un homme qu'elle ne connaît pas. Cet enfant vit chez ses grands-parents et elle va le voir tous les week-ends. Elle est en couple avec Georg, sauf que Georg, passé les premiers temps de ses relations amoureuses, il se désintéresse complètement de l'amour physique. Il suggère alors à Uli que ça ne le dérange pas si elle se trouve des amants. Uli rencontre alors un jeune homme, Kim, jeune immigré nigérian dont elle va tomber également amoureuse. Une situation pour le moins délicate qu'elle va nous raconter dans cette BD. Je vais profiter de cette BD pour vous faire une petite aparté sur l'autobiographie en BD. L'autobiographie en BD, c'est quasiment devenu un style à part entière. Dans les années 90, les BD autobiographiques ont pas mal révolutionné le truc, et les petits éditeurs qui ont lancé le truc ont donné un gros coup de pied dans le médium. Sauf qu'assez rapidement, les gros éditeurs bien installés ont récupéré le truc, et ils l'ont petit à petit vidé de sa force en proposant de la BD autobiographique au kilomètre. En plus, dans la foulée, les BD blogs sont arrivés, et résultat, aujourd'hui, on bouffe de l'autobiographie en BD à tire-larigot. Il y a en plus des modes, genre en ce moment on est sur la BD reportage qui met en scène le dessinateur au cœur d'un conflit, ou la BD que moi j'appelle d'hôpital, dans laquelle le dessinateur raconte sa maladie ou celle de ses proches, et j'en passe et des meilleurs. Tout n'est pas à jeter, loin de là, mais franchement, combien de BD reportages sans intérêt pour une de Joe Sacco, et combien de Margot Mantin pour une Aurélie Oretta ? Au final, aujourd'hui, pour trouver une BD autobiographique intéressante, à mon sens, faut s'accrocher. La plupart du temps, ces BD exposent leur sujet à la manière d'un manuel scolaire, sans émotion et sans réelle profondeur, car elles restent vraiment dans un usage superficiel du médium BD. Un peu comme l'histoire de France en BD, racontée par l'oncle Georges. Alors, est-ce que cette BD, le « Alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien » de Uli Lust, échappe à tout ça ? Oui, en partie. Parce que Uli Lust se raconte sans artifice. Elle essaye pas de nous faire rigoler, par exemple. Elle essaye d'être au plus près de ce qu'elle ressentait à l'époque pour nous le raconter. Et ça, ça met d'emblée la BD à part du tout venant de la BD autobiographique. Le dessin également, il est suffisamment personnel pour se démarquer du reste de la production. Sauf que, en fait, moi, j'ai pas été transporté. La faute à un dessin qui me plaît pas vraiment, peut-être à un manque de compréhension de ma part, je sais pas trop, c'est vrai que je ne comprends absolument pas sa relation et ses réactions. Mais en tout cas, il y a quand même, en dehors des points positifs dont j'ai parlé avant, il y a encore des pages très réussies dans lesquelles elle retranscrit le plaisir physique et amoureux. C'est un presque limite porno des fois, mais franchement, ça le fait pas mal. Je sais pas si cette BD va avoir un prix à Angoulême. Oulilust, elle en avait déjà eu un pour sa BD précédente qui s'appelait Trop n'est pas assez et qui raconte sa jeunesse punk à 17 ans. Mais même si j'ai pas adoré donc cette BD alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien, cette porte entrouverte sur la vie d'Oulilust m'a suffisamment touché pour me donner envie d'aller lire ses autres livres. Donc voilà, c'était alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien de Oulilust. En général, quand j'ai fini de parler d'un livre, pour les quelques éditeurs, les auditeurs qui m'écoutent, j'essaye de passer un morceau en rapport avec le livre. Mais là, je connais absolument pas la musique autrichienne. Alors, comme j'ai regardé une série qui s'appelle Rick et Morty tout le week-end, et qui passe un morceau dans un épisode que j'aime beaucoup, je vais vous le mettre. Et après, l'autre truc, c'est comme je suis tout seul et que j'ai amené que des vinyles, je vais un peu galérer pour changer les trucs. Donc, je vais vous faire un tout petit blanc et on revient avec un morceau de Blonde Redhead qui s'appelle For the Damaged Coda. De retour dans Qui ou Quoi, on continue à parler de livres sur Radio Duo. Il y a une semaine et demie, c'était le premier dimanche du mois. Et je suis donc allé au musée d'art moderne de Saint-Étienne, et comme à chaque fois que j'y vais, j'ai fini ma visite par un petit tour à la librairie du musée, qui est vraiment très très bien pour ceux qui ne la connaissent pas. J'y ai trouvé un beau livre, super cher, sur Yayoi Kusama. Ça s'appelle I Who Have Arrived in Heaven, avec mon plus bel accent anglais, et l'éditeur, c'est David Zwimmer. Yayoi Kusama, c'est une artiste japonaise, pour ceux qui ne connaissent pas, que moi j'ai découverte un peu par hasard lors d'une exposition à Paris en 2001. Dixit les Inrecuptibles à l'époque, il y avait une super exposition à la Maison du Japon à côté de la Tour Eiffel. J'y suis donc allé et j'ai découvert une partie des œuvres de Yayoi Kusama. en particulier ce jour-là, ses installations. Je vais essayer de vous décrire le truc. C'est un peu difficile, mais je vais quand même essayer. Dans mon souvenir, on rentrait dans l'exposition dans une pièce, la pièce d'un appartement normal avec un lit, des meubles, et puis petit à petit, la lumière diminuait, laissait la place à de la lumière noire, et révélait alors des points de taille et de couleurs différentes sur les murs et sur les meubles, puis la lumière noire repartait, et ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment, on pouvait aussi rentrer dans une pièce fermée, il y avait un gardien devant, et on devait attendre son tour. Une fois qu'on était rentré, on découvrait une pièce dont tous les murs étaient recouverts de miroirs, plafond compris, et le sol était recouvert d'une petite épaisseur d'eau, et nous, les visiteurs, on était sur un ponton. Une fois rentré, le gardien fermait la porte, et on se retrouvait seul, enfermé dans cette pièce pleine de miroirs, et des reflets de nous à l'infini. Et en fait, du plafond pendouillaient à différentes hauteurs des centaines de LED de différentes couleurs, des rouges, des vertes, des jaunes, etc., qui s'allumaient alors avec de plus en plus d'intensité, et chaque petite lumière se reflétait à l'infini. Les lumières à l'infini, les couleurs, les cannes de l'eau, tout ça, enfin, c'est un peu dur à décrire, mais c'était vraiment une expérience très forte, sensationnelle, et même si j'utilise pas souvent le mot, et cette installation m'a vraiment marqué à vie. De ce que j'en avais retenu à l'époque, Yayoi Kusama, bon, c'est que Yayoi Kusama, elle a une fascination pour les points et la répétition à l'infini, et que j'avais vraiment été chanceux de voir cette exposition. Et même si j'ai revu certaines de ses installations dans d'autres circonstances, et que j'ai ensuite découvert son travail de peinture, j'ai jamais retrouvé la force de cette première fois. Sauf dans ce livre que j'ai acheté au musée. J'exagère peut-être un peu, mais bon, à vous de le voir si vous avez le livre entre vos mains. Pour le coup, le livre est essentiellement composé de reproductions de peintures récentes de l'artiste, et en préparant l'émission, j'ai d'ailleurs appris un peu plus de choses sur elle. Sa fascination des points et de la répétition lui vient du fait que depuis toute petite, elle a des hallucinations en permanence. Genre, vers 10 ans, elle a vu le motif de la nappe du salon se répéter au plafond, et comme donc ces hallucinations, elle les a tout le temps depuis, elle les exorcise en les dessinant. Il y a bien évidemment d'autres thèmes dans ses peintures, hein. Il y a pas mal de phallus, des formes à répétition autres que des points. Bref, les peintures du livre n'échappent pas du tout à ses obsessions. Sauf que les peintures récentes sont moins axées sur les points, et donc on découvre vraiment des nouvelles choses, quoi. Il y en a à peu près 30, et d'après le texte qui est dans le livre, la particularité de ses œuvres, c'est de mettre en avant les qualités de coloriste de Yayoi Kusama. Mais, surtout, qu'est-ce qui m'a fait acheter ce livre pour le coup? C'est que dans la seconde partie du livre, il y a trois des installations de Yayoi Kusama qui sont traitées. Deux que je ne connais pas, et celle que j'ai essayé de vous décrire qui s'appelle en fait Infinity Mirrored Room, The Soul of Millions Light Years Away. Et pour le coup, j'ai trouvé les photos tellement bien que je me suis quasiment retrouvé là-bas. Je suis vraiment très content. Pour le coup, ça me permet de rebondir un petit peu sur un truc. Je sais que régulièrement, enfin, moi j'aime beaucoup l'art contemporain. Je sais que régulièrement, j'assiste au débat comme quoi l'art contemporain c'est de la merde, que c'est pas beau, que ça sert à rien, que l'art contemporain ça n'est qu'une niche fiscale qui participe à la victoire du capitalisme. Je vous renvoie pour ça à la conférence gesticulée de Franck Lepage sur l'art qu'on peut très facilement voir sur YouTube. Mais même si c'est sûrement en partie vrai quant à la partie fiscale, pour le coup, une artiste comme Yayoi Kusama prouve qu'il y a encore de belles choses et que l'art contemporain a bien des choses à dire et à faire ressentir. Bien sûr, pour le coup, c'est toujours mieux de voir ses œuvres en vrai et c'est pas un livre qui va faire changer quelqu'un d'avis sur l'art contemporain, mais je vous jure que celui-là de livre, il est très réussi et Yayoi Kusama, elle est grande, vivement qu'ils en fassent une rétrospective au musée. O-T-Y. c'était le groupe The Plastics avec le morceau Copy. Alors, autant vous le dire, j'ai galéré pour trouver un troisième livre. Déjà ce qu'il faut pour la prochaine émission, même s'il faut que j'en finisse un ou deux, mais là j'ai eu la balle. Alors pour changer, je vais pas vous parler d'un roman ou d'une autre BD, je vais vous parler de revues. Parce que je suis un mec à l'ancienne et que je lis encore la presse écrite et qu'en plus je vous passe des vinyles. Et franchement, en presse écrite, il y a encore des trucs cool et facilement trouvables. Je vais donc vous parler de deux titres. Les deux titres des revues, ça s'appelle, il y a Gonzaï d'un côté et Atome de l'autre. Le premier, vous connaissez peut-être déjà. Pour le coup, pour ceux qui sont déjà venus à Radio Dio, j'ai vu des numéros qui traînent dans les bureaux. Gonzaï, c'est quoi ? C'est un magazine qui parle de pop culture et frics. C'est écrit dessus. Comme j'arrive toujours un peu après le bal, je viens juste de découvrir le magazine qui en est déjà au numéro 22. Si on me demandait de le décrire, je le comparerais volontiers à Vice Magazine, mais en français. Donc j'ai été assez content quand j'ai vu qu'eux-mêmes se décrivaient comme un magazine qui s'inspire de la presse d'investigation américaine. Donc typiquement ce que fait Vice Magazine, quoi, ou Vice News. En retard, mais j'avais quand même bon quant à mon appréciation du truc. Autant me lancer un peu quelques fleurs. Je vais pas essayer de vous convaincre d'acheter Gonzaï, je vais juste vous dire pourquoi moi j'aime Gonzaï. Je vais quand même d'abord évacuer les trucs que j'aime pas dans Gonzaï pour le coup, parce qu'il y en a. Le côté punchline qui est très dans l'air du temps. En gros, je suis plus cool que les autres, et en fait ça fait quand même très parisien. J'aime pas trop la maquette, mais bon, c'est pas ça qui va m'empêcher de le lire, parce que c'est pas écrit en lettres gothiques non plus. Le point positif de Gonzaï, c'est la ligne éditoriale. En mode je ne vous parle que des héros de la contre-structure. Et au plus, en mode j'en ai rien à foutre, je parle de ce que je veux. C'est-à-dire, ça donne des articles vus nulle part ailleurs. Entre un numéro spécial Johnny, mais bon, qui date déjà d'il y a 3 mois, c'est dire comme les gars sont clairvoyants, ou un numéro sur Martin Shkreli, l'homme le plus détesté du monde, si l'on en croit leur une, c'est l'homme qui avait racheté le dernier album du Wu-Tang Clan, mais qui auparavant avait augmenté un médicament de, je sais pas, enfin un millionnaire absolument insupportable. Mais donc ils sont allés l'interviewer, donc c'est assez rigolo, ils ont fait un numéro entier, enfin spécial dessus, c'est plutôt intéressant. Et puis il y a toujours de la place pour parler d'un truc un peu obscur, d'un label comme le Turc Mécanique, un label bordelais qui défonce bien en ce moment, ou alors de faire un article sur le fait d'écouter l'intégrale de U2 en un week-end. Bref, ça fait quand même globalement bien plaisir. Ils viennent de sortir le dernier numéro de l'année sur le thème c'est Gonzo et nouveau journalisme. Et surtout, j'en ai parlé parce qu'ils viennent de lancer. Enfin, ils sont sur la fin de la nouvelle campagne d'abonnement pour l'année prochaine sur Ulule. Il reste 4 jours, il en manque encore un peu, n'hésitez pas à offrir un abonnement pour Noël. Moi, j'ai déjà payé le mien, pour le coup. Le second magazine dont je voulais vous parler, ça s'appelle Atome, et le sous-titre c'est « La culture manga ». C'est un magazine de BD, de manga plus précisément, comme on pouvait le deviner. Et je l'ai découvert via Facebook, via un monsieur qui s'appelle Stéphane Beaujean, qui est le directeur artistique du festival d'Angoulême. Vous allez croire que je passe mon temps à regarder des trucs sur Angoulême, et qui présentait la revue en disant qu'il n'avait pas vu de revue aussi intéressante sur la BD depuis la disparition de Kaboom. Kaboom, c'est une revue de BD particulièrement fameuse et intéressante qui s'est effectivement arrêtée il n'y a pas longtemps. Alors, Atome, donc, c'est une revue de BD spécialisée dans le manga. C'est un ancien de Mad Movies qui a monté ça, et c'est un trimestriel. Pour le coup, Le contenu, il est hyper exigeant, entre interviews et articles de fond vraiment poussés. On a vraiment affaire à des gens qui s'y connaissent, je pense qu'ils doivent tous parler japonais à la rédaction, et qui tiennent à nous faire voir le manga, ils tiennent tous à nous faire voir le manga sous un angle critique, au risque d'ailleurs de nous perdre parfois, mais bon, c'est pas très grave, c'est comme tout, on n'est pas obligé de tout lire. Sans équivalent dans la presse BD, Atom propose vraiment des articles de fond. Et comme c'est un trimestriel, il y a vraiment de quoi lire. Pour le coup, la maquette, le papier, tout ça c'est carrément luxueux. Le dernier numéro, il date de début novembre. C'est un spécial Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator, qui bien évidemment n'a pas fait que cette BD, loin de là. Et il y a également un gros article sur le traitement d'Hiroshima dans le manga, ainsi que sur l'influence mutuelle qu'ont pu se porter les mangas et les comics. Le contenu est vraiment intéressant, même si pour le coup, il fait aussi naître une certaine forme de frustration, comment lire tout ce dont il parle. Une grosse partie n'est d'ailleurs pas du tout éditée, n'est pas forcément éditée en France. Et nos petites bibliothèques sont loin d'être très fournies en manga. C'est le seul bémol de ce vraiment très bon magazine. Je vous le rappelle donc, ça s'appelle Atom, la culture manga. Donc voilà, qui ou quoi touche à sa fin. Je vous rappelle ce dont on a parlé ce soir, d'une BD qui s'appelle « Alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien » de Uli Lust, une BD autobiographique, d'un livre de reproduction d'œuvres de la japonaise Yayoi Kusama, livre qui s'appelle... I Who Have Arrived in Heaven, chez l'éditeur David Zwimmer, et de deux revues, la revue Gonzai, à laquelle il faut s'abonner d'ici 4 jours, et la revue Atom sur la culture manga. Vous avez échappé, bien sûr, à la spéciale Jean d'Ormesson, parce que je n'ai jamais lu un livre de Jean d'Ormesson, et que j'avais pas le temps d'en lire 40 en une semaine. Bon, donc je pense que je vais faire l'impasse. Vous me direz via Facebook, si vous êtes frustré, je pourrais toujours en extraire un ou deux. J'ai pas fait non plus de spécial Johnny Hallyday, mais je sais pas s'il a écrit des livres pour le coup. Donc en attendant, on se retrouve dans 2 semaines, entre Noël et le jour de l'an, et bonne soirée. Thank you.